Sénèque, Lettre à Lucilius, Livre 4, Lettre 30. Attendre la mort de pied ferme, à l'exemple de Bassus. Je viens de voir Bassus à Aufidius, excellent homme, battu en brèche par le temps contre lequel il lutte avec vigueur. Mais la charge devient trop forte pour qu'il puisse se relever. La vieillesse est venue l'assaillir tout entière et de tout son poids. Tu sais qu'il fut toujours d'une complexion débile et appauvrie. Longtemps il l'a maintenue, et pour dire vrai, rajustée. Elle vient de manquer tout à coup. Quand l'eau s'infiltre dans un navire par une ou deux voies, on y remédie. Mais s'il s'entr'ouvre, et cède en plusieurs endroits, si ses flancs éclate de toutes parts, tout secours devient impossible. Ainsi, un corps vieillissant trouve des supports momentanés pour étayer sa décadence. Mais si le ruineux édifice se disjoint dans toute sa charpente, si, quand on le soutient d'un côté, un autre se détache, il faut chercher par où faire retraite. Notre Bassus n'en garde pas moins tout l'enjouement de son esprit. C'est à la philosophie qu'il le doit. En présence de la mort, il est gai. Quel que soit son état physique, il est courageux et serein, et ne s'abandonne pas quand ses organes l'abandonnent. Un bon pilote tient encore la mer avec sa voile déchirée. Dégarni même de ses agrès, il radoube encore ses débris pour de nouvelles courses. Ainsi fait notre Bassus. Il voit venir sa fin avec une sécurité d'esprit et de visage qui, s'il regardait de même celle d'autrui, passerait pour insensibilité. C'est une grande chose, Lucilius, et qui demande un long apprentissage que de savoir, quand arrive l'heure inévitable, partir sans murmure. Aux autres causes de trépas se mêle encore de l'espérance. Une maladie cesse, un incendie se laisse éteindre, un écroulement qui semblait devoir nous écraser nous porte mollement jusqu'à terre. Le flot qui nous engloutissait nous rejette par cette même force d'absorption, sain et sauf, sur la rive. Le soldat a baissé son glaive devant la tête qu'il allait trancher. Mais plus d'espoir pour l'homme que la vieillesse traîne à la mort. Auprès d'elle seule, point d'intercession possible. C'est la plus douce, mais aussi la plus longue façon de mourir. Bassus me semblait suivre ses propres obsèques et s'enterrer, et comme se survivre, et agir en sage qui se regrette sans faiblesse. Car la mort est son texte ordinaire, et il met tous ses soins à nous persuader que s'il y a du dommage ou de la crainte à éprouver dans cette affaire, c'est la faute du mourant, non de la mort, qu'il n'y a en elle rien de fâcheux, pas plus qu'après elle. Or, on est aussi fou de craindre un dommage qui n'aura pas lieu qu'un coup qu'on ne sentira point. Peut-on croire qu'il nous arrivera de sentir ce par quoi nous ne sentons plus? Oui, dit-il, la mort est tellement exempte de tout mal qu'elle l'est même de toute crainte de mal. Ces vérités, je le sais, se sont dites souvent, se rediront souvent encore, mais elles ne m'ont jamais tant profité, ni dans les livres, ni dans la bouche de gens qui blâmaient la crainte d'un mal dont ils se voyaient loin. Combien plus d'autorité prennent sur moi les discours d'un homme parlant de sa fin toute prochaine. Et pour dire ce que je pense, je crois qu'on est plus ferme dans l'agonie qu'aux premières approches de la mort. Présente, elle donne aux âmes les moins exercées le courage de ne plus éviter l'inévitable. Ainsi, le gladiateur, qui, dans toute la lutte, fut le plus timide, tend la gorge à l'adversaire, et y dirige le fer incertain. Mais l'idée d'un trépas voisin, infaillible surtout, exige un courage aussi soutenu qu'énergique. Or, il est rare et ne peut s'obtenir que du sage. Aussi, avec quelle avidité je l'écoutais m'énoncer, en quelque sorte, son arrêt sur la mort et me révéler un mystère qu'il avait sondé de plus près. Il aurait sur toi, j'imagine, plus de créance et plus de poids, le récit d'un homme revenu à la vie, pour t'affirmer sur son expérience que la mort n'est nullement un mal. Quant aux approches de cette mort et aux angoisses qu'elle apporte, qui peut mieux te les décrire que ceux qui furent avec elle en présence, qui la virent venir et lui ouvrirent leurs portes? Tu peux mettre Bassus de ce nombre. Il a voulu nous désabuser. Craindre le trépas, nous dit-il, est aussi absurde qu'il le serait de craindre la vieillesse. Tout comme la vieillesse succède à un âge plus jeune, ainsi la mort à la vieillesse. C'est n'avoir pas voulu vivre que de ne vouloir pas mourir. La vie, en effet, nous fut donnée sous la condition de la mort. Elle nous y achemine. Craindre de mourir est donc une folie, car on doit attendre le certain, le doute seul s'appréhende. La mort est une égale et invincible nécessité pour tous. Qui peut se plaindre d'une fatalité dont nul n'est exempt? La base première de l'équité, c'est l'égalité. Mais il est superflu de justifier ici la nature qui n'a imposé à l'homme d'autre loi que la loi qu'elle subit elle-même. Tout ce qu'elle a formé, elle le décompose, et le décompose pour former de nouveau. Mais l'homme assez heureux pour se voir doucement congédié par la vieillesse, qui, au lieu de l'arracher tout d'un coup à la vie, l'en retire pas à pas, ne doit-il pas des actions de grâce à tous les dieux pour l'avoir conduit rassasié de jour jusqu'au repos si nécessaire à l'humanité, si agréable à la fatigue? Tu vois des gens souhaiter la mort avec plus d'ardeur que les autres ne demandent la vie. Je ne sais lesquels, à mon sens, nous encouragent le plus, de ceux qui sollicitent la mort ou de ceux qui l'attendent gaiement et en paix. Chez les premiers, en effet, c'est parfois un transport furieux, un dépit soudain. Chez les seconds, c'est le calme d'une décision ferme. On peut courir à la mort dans un accès de fureur contre elle, mais nul ne l'accueille d'un front serein que celui qui, de longue main, s'y est disposé. Je l'avoue donc, j'ai multiplié mes visites chez cet homme qui m'est cher, et je l'ai fait pour plus d'un motif. Je voulais savoir si chaque fois je le trouverais le même, si, avec ses forces physiques, ne baisserait pas sa vigueur d'âme. Mais elle croissait visiblement, tout comme l'allégresse du coureur qui touche au septième stade et à la palme. Il disait, fidèle au dogme d'Épicure, « D'abord, j'ai l'espoir que le dernier soupir n'a rien de douloureux. Sinon, le mal est du moins un peu allégé par sa brièveté même, car point de longue douleur qui soit grande. Et puis je me représenterai, dans cette séparation même de l'âme et du corps, que, si elle n'a pas lieu sans souffrance, après celle-là, nulle autre douleur n'est possible. Ce dont je ne doute pas, au reste, c'est que l'âme du vieillard est sur le bord de ses lèvres, et qu'il ne lui faut pas grand effort pour s'arracher de sa prison. Le feu qui s'est pris à une matière solide ne peut être éteint que par l'eau, et quelquefois par l'écoulement de ce qu'il dévore. Celui qui n'a plus d'aliments tombe de lui-même. C'est avec charme, Lucilius, que j'écoute ces paroles, non comme nouvelles, mais comme me mettant en présence de la crise réelle. Quoi ? N'ai-je donc pas été témoin d'une foule de trépas volontaires ? Oui, je l'ai été, mais il a bien plus d'autorité sur moi l'homme qui se présente à la mort sans haine de la vie, l'homme qui l'accueille sans l'aller chercher. Si nous la ressentons comme un tourment, disait-il, c'est notre faute. Nous prenons l'alarme dès que nous la croyons proche de nous. Et de qui n'est-elle pas proche? Partout et toujours, elle est là. Considérons donc, poursuivait-il, alors qu'une cause de mort quelconque semble venir à nous, combien d'autres sont plus voisines que nous ne craignons pas. Un homme était menacé de la mort par son ennemi. Une indigestion la prévint. Si nous voulons démêler les motifs de nos frayeurs, nous les trouverons tout autres qu'il ne semble. Ce n'est pas la mort que l'on craint, c'est l'idée qu'on s'en fait. Car, par rapport à elle, nous sommes toujours à même distance. Oui, si elle est à craindre, elle l'est à chaque instant. Car quel instant est privilégié contre elle? Mais je dois appréhender que de si longues lettres ne te semblent plus haïssables que la mort. C'est pourquoi je finis. Toi seulement, songe toujours à cette dernière heure pour ne la craindre jamais. Lettre 31. Dédaigner les vœux même de nos amis et l'opinion du vulgaire. Je reconnais, mon Lucilius, il commence à se montrer tel qu'il l'avait promis. Suis cet élan de l'âme vers tout ce qui fait sa richesse, en foulant aux pieds ce que le vulgaire appelle bien. Je ne te souhaite ni plus grand ni meilleur que tu n'aspirais à l'être. Tes plans furent jetés sur de larges assises. Remplis seulement la tâche que tu t'es faite et mets en œuvre les matériaux que tu portes avec toi. En deux mots, tu feras sagement si tu te bouches les oreilles, non pas avec de la cire, c'est trop peu. Il faut quelque chose de plus ferme et de plus compact que ce qu'Ulysse employa, dit-on, pour son équipage. Cette voix qu'il redoutait était séduisante, mais n'était pas celle de tout un peuple. La voix qu'il te faut redouter, ce n'est pas d'un seul écueil, c'est de tous les points du globe qu'elle t'assiège et retentit. Tu dois côtoyer plus d'une plage suspecte où la volupté tend ses pièges. Toute cité est à fuir. Sois sourd pour ceux qui t'aiment le plus. Ils forment du meilleur cœur les plus funestes vœux. Et si tu veux être heureux, prie les dieux qu'ils ne t'envoient rien de ce qu'on te souhaite. Ce ne sont pas des biens que toutes ces choses dont on voudrait te voir comblées. Il n'est qu'un bien qui donne et consolide la vie heureuse, être sûr de soi. Or, celui-là ne peut nous échoir si nous ne méprisons la fatigue et ne la mettons au rang de ce qui n'est ni bien ni mal. Car il ne peut se faire qu'une chose soit tantôt mauvaise, tantôt bonne, tantôt légère et supportable, tantôt horrible à envisager. Ce n'est pas la fatigue qui est un bien. Où donc est le bien? Dans le mépris de la fatigue. Aussi blâmerais-je toute activité sans but. Quant aux hommes qui se portent vers l'honnête, plus ils font d'efforts, sans se laisser ni vaincre ni arrêter en leur chemin, plus je les admire et leur crie, redoublez de courage, faites provision de souffle et franchissez la montagne, s'il se peut, tout d'une haleine. La fatigue est l'aliment des fortes âmes. Ne va donc pas, dans les vœux jadis formés par tes parents, choisir ce que tu voudras obtenir et souhaiter pour toi. Et après tout, un homme qui a traversé de si haut poste doit rougir d'importuner encore les dieux. Qu'est-il besoin de vœux? Fais-toi heureux toi-même, et tu le seras, si tu reconnais pour vrai bien ceux qu'accompagne la vertu, et pour déshonnête tout ce à quoi la méchanceté s'allie. De même que, sans un mélange de lumière, il n'est rien de brillant, et rien de sombre, s'il ne porte en soi ses ténèbres, ou n'attire quelque obscurité, de même que sans l'auxiliaire du feu il n'est point de chaleur, et sans l'air, point de froid. Ainsi, l'honnête ou le honteux naissent de l'alliance de la vertu ou de la méchanceté. Qu'est-ce donc que le bien ? La science. Qu'est-ce que le mal ? L'ignorance. L'homme éclairé dans l'art de vivre sait rejeter ou choisir selon le temps. Mais il ne craint point ce qu'il rejette. Il n'admire point ce qu'il choisit, s'il a l'âme grande et invincible. Je ne veux pas que la tienne fléchisse et s'abatte. Ne pas refuser le travail est trop peu. Implore-le. Mais quel est le travail frivole et superflu ? Celui où t'appellent des motifs peu nobles. Il n'est pas mauvais par lui-même, pas plus que le travail consacré à de nobles choses, parce que c'est là, proprement, la patience de l'âme qui s'excite aux rudes et difficiles entreprises, qui se dit « Pourquoi languir ? Est-ce à un homme à craindre les sueurs ?» Joins à l'amour du travail, pour que la vertu soit parfaite, une égalité de vie soutenue et conforme en tout à elle-même. Accord impossible sans le bienfait de la science, sans la connaissance des choses divines et humaines. Voilà le souverain bien. Sache le conquérir et tu deviens le compagnon des dieux, non plus leur suppliant. Comment, dis-tu, parvenir aussi haut ? Ce n'est ni par l'Apennin ou l'Olympe, ni par les déserts de Candavie, point de Syrte, ni de Scylla, ni de Charybde à affronter. Bien que tu aies traversé tout cela au prix d'une chétive mission. Elle est sûre, elle est pleine de charme, la route pour laquelle t'a approvisionné la nature. Soutenue de ses dons, si tu n'y es pas infidèle, tu t'élèveras au niveau de Dieu. Or, ce niveau, ce n'est pas l'argent qui t'y place. Dieu ne possède rien. Ce n'est pas le prétexte. Dieu est nu. Ce n'est ni la renommée, ni l'ostentation de tes mérites, ni ta gloire au loin répandue chez les peuples. Nul ne connaît Dieu. Beaucoup en pensent mal et impunément. Ce n'est pas non plus cet essaim d'esclaves qui vont portant ta litière par la ville et dans tes voyages. Ce Dieu, le plus grand et le plus puissant des êtres, porte lui-même l'univers. Ni la beauté, ni la force ne sauraient faire ton bonheur. Ni l'un ni l'autre ne résistent au temps. Il faut chercher ceux qui ne se détériorent pas de jour en jour, ce à quoi rien ne fait obstacle. Que sera-ce donc ? L'âme. Mais l'âme dans sa droiture, sa bonté, sa grandeur. Peux-tu voir en elle autre chose qu'un dieu qui s'est fait l'hôte d'un corps mortel ? Cette âme peut tomber dans un chevalier romain comme dans un affranchi, comme dans un esclave. Qu'est-ce en effet qu'un chevalier, un affranchi, un esclave ? Qualification créée par l'orgueil ou l'usurpation. On peut s'élever vers le ciel du lieu le plus infime. Eh bien, qu'un élan généreux te transforme à ton tour en digne fils des dieux. Mais se transformer, ce n'est point reluire d'or et d'argent. On ne peut avec cette matière reproduire la ressemblance divine. Songe qu'au temps où ils nous furent propices, les dieux étaient d'argile. Lettre 32. Compléter sa vie avant de mourir. Je m'informe de toi, et je demande à tous ceux qui viennent de tes parages ce que tu fais, où et avec qui tu demeures. Tu ne saurais me payer de mots, je suis avec toi. C'est à toi de vivre comme si j'allais apprendre tous tes actes, ou plutôt les voir. Veux-tu savoir, dans tout ce qu'on me dit de toi, ce qui me charme le plus ? Que l'on ne m'en dit rien, que la plupart de ceux que j'interroge ignorent ce que tu fais. Voilà qui est salutaire, de ne pas vivre avec qui ne nous ressemble point et a des goûts différents des nôtres. Oui, j'ai la confiance qu'on ne pourra te faire dévier et que tu persisteras dans tes plans en dépit des sollicitations qui t'assiègent en foule. Que te dirais-je? Je ne crains pas que l'on te change, mais qu'on embarrasse ta marche. C'est beaucoup nuire déjà que d'arrêter. Cette vie est si courte, et notre inconstance l'abrège encore en nous la faisant recommencer sans cesse. Nous la morcelons en trop de parcelles, nous la déchiquetons. Hâte-toi donc, cher Lucilius, et songe combien tu redoublerais de vitesse si tu avais l'ennemi à dos, si tu soupçonnais l'approche d'une cavalerie lancée sur les pas des fuyards. Tu en es là. On te sert de près. Fuis plus vite et trompe l'ennemi. Ne t'arrête qu'en lieu sûr et considère souvent que c'est une belle chose à l'homme de compléter sa vie avant de mourir, puis d'attendre en sécurité ce qu'il lui reste de jours à vivre, fort de sa propre force et en possession d'une existence heureuse qui ne gagne pas en bonheur à être plus longue. Oh, quand verras-tu l'heureux temps où tu sentiras que le temps ne t'importe plus, où, tranquille et sans trouble, insoucieux du lendemain, tu auras, à satiété, joui de tout ton être. Veux-tu savoir ce qui rend les hommes avides de l'avenir? C'est que pas un ne s'est appartenu. Tes parents, à coup sûr, ont fait pour toi d'autres vœux que le mien, car, au rebours de leurs souhaits, je veux te voir mépriser tout ce qu'ils voulaient accumuler sur toi. Leurs désirs dépouillaient quantité d'hommes pour t'enrichir. Tout ce qu'ils transportaient à leurs fils, c'est à d'autres qu'on leur ait pris. Je te souhaite la disposition de toi-même, et que ton âme, agitée de vagues fantaisies, puisse enfin se rasseoir et se fixer, qu'elle sache se plaire, et qu'arrivée à l'intelligence des vrais biens, intelligence que suit aussitôt la possession, elle n'ait pas besoin d'un surcroît d'années. Il a enfin franchi les épreuves de la nécessité, il est émancipé, il est libre, celui qui vit encore, après que sa vie est achevée. Lettre 33. Sur les sentences des philosophes, penser à son tour par soi-même. Tu désires que pour appendice à mes lettres, je te donne, comme précédemment, un choix de sentences de nos grands maîtres. Ce n'est pas de Bleuet qu'ils se sont occupés. Tout le tissu de leur œuvre est d'une beauté mâle. C'est la preuve d'un génie inégal, de ne briller que par saillie. On n'admire point un arbre isolé quand la forêt s'élève toute à la même hauteur. Ces sortes de sentences abondent dans les poètes, abondent dans les historiens. Je ne veux donc pas que tu en fasses honneur à Épicure. Elles sont à tout le monde et notamment à notre école. Mais chez lui, on les remarque mieux, parce qu'elles y apparaissent à intervalles rares, qu'elles sont inattendues, et que de fermes paroles étonnent venant d'un homme qui fait profession de mollesse, car c'est ainsi que presque tous le jugent. Pour moi, Épicure est un homme de cœur, bien qu'il ait des manches à sa robe. Le courage et l'action et le génie de la guerre peuvent se trouver chez les Perses comme chez les peuples à toges relevées. N'exige donc plus que ces traits détachés et pris çà et là. Il y a chez nous continuité de ce qui fait exception chez les autres. Aussi, n'avons-nous point d'étalage qui frappe les yeux. Nous n'abusons point l'acheteur pour ne lui offrir, une fois entré, rien de plus que la montre suspendue au dehors. Nous laissons chacun prendre à son choix ses échantillons. Quand nous voudrions, dans cette multitude de pensées heureuses, en trier quelques-unes, à qui les attribuerions-nous? À Zénon, à Cléante, à Chrysippe, à Panétius, à Posidonius? Nous ne sommes pas sujets d'un roi. Chacun relève de soi seul. Chez nos rivaux, tout ce qu'a dit Hermacus, tout ce qu'a dit Métrodore, s'impute au même maître. Tout ce qui fut traité par le moindre disciple sous la tente épicurienne l'a été par l'inspiration et sous les auspices du chef. Nous ne pouvons, je le répète, quand nous l'essayerions, extraire rien d'un si grand nombre de beautés toutes égales. Pauvre est celui dont le troupeau se compte. N'importe où tu jetterais les yeux, tu tomberais sur des traits dignes de remarque, s'ils ne se lisaient pêle-mêle avec d'autres semblables. Ainsi, ne compte plus pouvoir, en l'effleurant, goûter le génie des grands hommes. Il faut le sonder dans toute sa profondeur, le manier tout entier. Ils font une œuvre de conscience. Chaque fil tient sa place dans la contexture du dessin. Ôtes-en un seul, toute l'ordonnance est détruite. Je ne te défends point d'analyser tel ou tel membre, mais que ce soit sur l'homme lui-même. Une belle femme n'est point celle dont on vante le bras ou la jambe, mais bien celle chez qui les perfections de l'ensemble absorbent l'admiration que mériteraient les détails. Si toutefois tu l'exiges, je ne serai pas chiche avec toi. Je te servirai à pleine main. La matière est riche et s'offre à chaque pas. On n'a qu'à prendre sans choisir. Là, tout coule, non pas goutte à goutte, mais à flot. Tout est continu, tout se lit. Je ne doute pas qu'un tel recueil ne profite beaucoup aux âmes encore novices et aux auditeurs non initiés, vu qu'on retient plus aisément des préceptes concis et comme enfermés dans un verre. Si l'on fait apprendre même aux enfants des sentences et de ces apophthegmes que les Grecs appellent krias, c'est que tout cela est à portée de leur naissante intelligence qui ne peut rien saisir au-delà dont l'utilité soit certaine. Il est peu digne d'un homme d'aller cueillant de menues fleurs, de s'appuyer d'un petit nombre d'adages rebattus, de se guinder sur des citations. S'il s'appuie sur lui-même, que ce soit lui qui parle, non ses souvenirs. Honte au vieillard et à l'homme arrivé en vue de la vieillesse qui n'a pour sagesse que de remémorer celle d'autrui. Zénon a dit ceci, et toi, Cléante a dit cela, et toi, ne t'ébranleras-tu jamais qu'à la voix d'un autre? Chef à ton tour, dis-nous des choses qui se retiennent, tire de ton propre fond. Oui, tous ces hommes, jamais autorité, toujours interprète, tapis à l'ombre d'un grand nom, selon moi, n'ont rien de généreux dans l'âme, n'osant jamais faire une fois ce qu'ils ont appris mille. Ils ont exercé sur l'œuvre d'autrui leur mémoire, mais autre chose est le souvenir, autre chose la science. Ce souvenir, c'est garder le dépôt commis à la mémoire. Savoir, au contraire, c'est l'avoir fait sien. Ne pas être en face de son modèle un écho, ni tourner chaque fois les yeux vers le maître. Tu me cites Zénon, puis Cléante. Eh, mais donc quelque différence entre toi et le livre. Quoi, toujours disciple? Il est temps que tu fasses la leçon. Ai-je besoin qu'on me récite ce que je puis lire? Mais la parole fait beaucoup. Non pas certes quand je la prête aux phrases qui ne sont pas de moi, et que je joue le rôle du greffier. Ajoute que ces hommes, toujours en tutelle, d'abord suivent les anciens, dans une étude où pas un ne s'est risqué qui ne s'écarta du devancier. Étude où l'on cherche encore la vraie voie. Or, jamais on ne la trouvera si l'on se borne aux découvertes connues. Et d'ailleurs, qui se fait suivant, ne découvre, ne cherche même plus rien. Pourquoi donc n'irai-je pas sur les traces de mes prédécesseurs? Oui, prenons la route de Frayé. Mais si j'en trouve une plus proche et plus unie, je me l'ouvrirai. Ceux qui, avant nous, ont remué le sol de la science, ne sont pas nos maîtres, mais nos guides. Ouverte à tous, la vérité n'a point ici d'occupant. Elle garde pour nos neveux une grande part de son domaine.
Lettre 34. Encouragements à Lucilius. Je grandis, je triomphe, et secouant les glaces de l'âge, je me sens réchauffé chaque fois que ta conduite et tes lettres m'apprennent combien tu t'es dépassé toi-même, car dès longtemps, tu as laissé la foule derrière toi. Si l'agriculteur est charmé quand ses arbres se couronnent de fruits, si le berger prend plaisir à voir multiplier son troupeau, s'il n'est personne qui n'envisage comme sien les progrès physiques de l'enfant qui la nourrit, que penses-tu qu'éprouve l'homme qui a fait l'éducation d'une âme, qui l'a façonnée, tendre encore, et qui la voit tout d'un coup grande et forte? Eh bien, je te revendique, moi. Tu es mon ouvrage. Aux dispositions que je t'ai reconnues, j'ai mis sur toi la main, t'encourageant, te pressant de l'aiguillon. Et, impatient de toute lenteur, je t'ai poussé sans relâche. Je le fais encore aujourd'hui, mais déjà j'exhorte un homme en pleine course qui me renvoie les mêmes exhortations. Tu me demandes ce que je veux de plus? Il y a beaucoup d'accomplis. De même, en effet, qu'avoir commencé, c'est avoir fait la moitié de la tâche entière, comme on dit. En morale aussi, pareille chose a lieu. Et un grand point, pour être bon, est de vouloir le devenir. Et sais-tu qui j'appelle bon? Celui qui l'est d'une manière parfaite, absolue. Celui que nulle violence, nulle nécessité ne rendrait méchant. Voilà l'homme que je prévois en toi. Si tu persévères et redoubles d'efforts, si tu parviens à ce que tes actions comme tes paroles s'accordent toutes et se répondent frappées au même coin. Elle n'est pas dans la droite ligne, l'âme dont les actes ne concordent pas.
Lettre 35. Il n'y a d'amitié qu'entre les gens du bien. Quand je t'invite si fortement à l'étude, c'est dans mon intérêt que je parle. Je veux posséder un ami, et ce bonheur me sera refusé si tu ne poursuis l'œuvre commencée de ta culture morale. Tu ne fais encore que m'aimer, tu n'es pas mon ami. Quoi, sont-ce là deux choses différentes? Oui, et même dissemblables. Qui est notre ami nous aime, qui nous aime n'est pas toujours notre ami. Aussi, l'amitié est toujours utile, et l'amour quelquefois peut nuire. Quand tu n'aurais pas d'autre but, étudie pour apprendre à aimer. Hâte-toi donc, puisque tes progrès sont pour moi, qu'un autre n'en est pas l'aubaine. Sans doute, je la recueille déjà, en rêvant que nous ne formerons qu'une âme, et que toute la vigueur que mon âge a perdue, le tien, qui pourtant n'est pas loin du mien, pourra me la rendre. Mais je veux une jouissance plus effective. La joie que procure, quoiqu'absent, ce qu'on aime, est légère et passe vite. Leur aspect, leur présence, leur entretien offrent quelque chose de plus vif, de mieux senti, quand, surtout, l'ami qu'on veut voir, on le voit tel qu'on le veut. Apporte-moi donc ton plus riche présent, qui est toi-même. Et pour te décider plus vite, songe que tu es mortel,
que je suis vieux. Sois pressé de te rendre à moi, mais à toi d'abord. Perfectionne-toi surtout dans l'art de ne point changer. Quand tu voudras voir la mesure de tes progrès, examine si tes désirs d'aujourd'hui sont ceux d'hier. Le changement de volonté dénote une âme flottante qu'on signale dans telle direction, puis dans telle autre, comme le vent l'y porte. Plus de courses vagues quand l'âme est fixe et bien assise. Telle devient celle du sage accompli, et dans cette mesure de l'homme en progrès, du demi-sage. Or, en quoi diffère l'un de l'autre? Celui-ci, bien qu'ébranlé, ne bouge pas. Il chancelle sur place. L'autre n'est pas même ébranlé. Lettre 36. Avantage du repos. Dédaigner les vœux du vulgaire, mépriser la mort. Exhorte ton ami à mépriser courageusement ceux qui lui reprochent d'avoir cherché l'ombre et la retraite et déserté ses hautes fonctions. Et quand il pouvait s'élever encore, d'avoir préféré le repos à tout. Il a bien pourvu à ses intérêts, il le leur prouvera tous les jours. Les personnages qu'on envie ne feront comme toujours que passer. On écrasera les uns, les autres tomberont. La prospérité ne comporte point le repos. Elle s'enfièvre elle-même, elle dérange le cerveau de plus d'une manière. Elle souffle à chacun sa folie. À l'un, la passion du pouvoir. À l'autre, celle du plaisir. Gonfle cela, amollit ceci, et leur hôte tout ressort. Mais telle supporte bien la prospérité. Oui, comme on supporte le vin. N'en crois donc point les propos des hommes. Celui-là n'est point heureux qu'assiège un monde de flatteurs. On court à lui en foule comme à une source où l'on ne puise qu'en la troublant. On traite ton ami d'esprit futile et paresseux. Tu le sais, certaines gens parlent au rebours de la vérité et il faut prendre le contre-pied de ce qu'ils disent. Il l'appelait heureux. Eh bien, l'était-il? Je ne m'inquiète même pas de ce que quelques-uns le trouvent d'humeur trop farouche et maussade. Ariston disait « J'aime mieux un homme trop sérieux que trop gai et aimable pour tout le monde. » Un vin rude et âpre en sa nouveauté finit par se faire bon. Celui qui flatte dans la cuve même ne supporte point l'âge. Laisse ton ami passé pour mélancolique et ennemi de son avancement. Cette mélancolie, avec le temps, doit tourner à bien. Qu'il persiste seulement à cultiver la vertu, à s'abreuver d'études libérales, de ces études dont il ne suffit pas de prendre une teinte, mais qui doivent pénétrer tout l'homme. La saison d'apprendre est venue. Qu'est-ce à dire? En est-il une qui soit exempte de ce devoir? Non, certes. Mais s'il est beau d'étudier à tout âge, il ne l'est pas d'en être toujours aux premières leçons. Quel objet de honte et de risée qu'un vieillard encore à l'ABC de la vie. Jeune, il faut acquérir pour jouir quand on sera vieux. Tu auras beaucoup fait pour toi-même si tu rends ton ami le meilleur possible. Les plus belles grâces à faire comme à désirer, les grâces de premier choix, comme on dit, sont celles qu'il est aussi utile de donner que de recevoir. Enfin, ton ami n'est plus libre. Il s'est obligé, et l'on doit moins rougir de manquer à un prêteur qu'à une promesse de vertu. Pour solder sa dette d'argent, il faut au commerçant une traversée heureuse. À l'agriculteur, la fécondité du sol qu'il cultive, la faveur du ciel, l'autre engagement s'acquitte par la seule volonté.
la fortune n'a pas droit sur les dispositions morales. Qu'il les règle donc de façon que son âme, dans un calme absolu, arrive à cet état parfait qui, n'importe ce qu'on nous enlève ou nous donne, ne s'en ressent pas et demeure toujours au même point, quoi que deviennent les événements. Qu'on lui prodigue de vulgaires biens, elle est supérieure à tout cela. Que le sort lui dérobe toute ou partie de ces choses, elle n'en est pas amoindrie. Si le possesseur de cette âme était né chez les Parthes, dès le berceau, il tendrait déjà l'arc. Si dans la Germanie, sa main enfantine brandirait la framée. Contemporain de nos aïeux, il eût appris à dompter un cheval et à frapper de près l'ennemi. Voilà pour chacun ce que l'éducation nationale a d'influence et d'autorité. Quel sera donc l'objet de son étude? Ce qui est de bon usage contre toute espèce d'armes et d'ennemis, le mépris de la mort. Que la mort ait en elle quelque chose de terrible, qui effarouche cet amour de soi que la nature a mis dans nos âmes, nul n'en doute. Autrement, il ne serait pas nécessaire de se préparer et de s'enhardir à une chose où un instinct volontaire nous porterait, comme est porté tout homme à sa propre conservation. Il ne faut pas de leçons pour se résoudre à coucher au besoin sur des roses. Il en faut pour s'endurcir aux tortures et n'y point subordonner sa foi. Pour savoir au besoin, debout, blessé quelquefois, veiller au bord des retranchements et ne pas même s'appuyer sur sa lance, car la sentinelle inclinée sur quelque support peut être surprise par des intervalles de sommeil. La mort n'apporte aucun malaise. Pour sentir du malaise, il faudrait vivre encore. Que si la soif d'un long âge te possède si fort, songe que tous ces êtres qui disparaissent pour rentrer au sein de la nature d'où ils sont sortis, d'où bientôt ils sortiront encore, nul ne s'anéantit. Tout cela change et ne meurt point. La mort même que l'homme repousse avec épouvante interrompt sans la briser son existence. Viendra le jour qui, de nouveau, nous rendra la lumière, que tant d'hommes refuseraient si ce jour ne leur ôtait aussi le souvenir. Mais plus tard, j'expliquerai mieux comment tout ce qui semble périr ne fait que se modifier. On doit partir de bonne grâce quand c'est pour revenir. Vois tourner sur lui-même le cercle de la création. Tu reconnaîtras que rien en ce monde ne s'éteint, mais que tout descend et remonte alternativement. L'été s'enfuit, mais l'année suivante le ramène. L'hiver détrôné reparaît avec les mois où il préside. La nuit engloutit le soleil et sera tout à l'heure chassée par le jour. Ces étoiles qui achèvent leur cours retrouveront tout ce qu'elles laissent derrière elles. Une partie du ciel se lève incessamment, tandis que l'autre se précipite. Terminons enfin en ajoutant cette seule réflexion, que ni l'enfant, soit au berceau, soit même plus tard, ni l'homme privé d'intelligence ne craigne la mort, et qu'il serait bien honteux que la raison ne nous donnât point cette sécurité où l'imbécilité d'esprit sait nous conduire. Lettre 38. Les courts préceptes de la philosophie préférables aux longs discours. Tu as raison de vouloir que notre commerce de lettres soit fréquent. Rien ne profite comme ces entretiens qui s'infiltrent dans l'âme goutte à goutte. Dans les dissertations préparées et à grand développement qui ont la foule pour auditoire, il y a quelque chose de plus retentissant, mais de moins intime. La philosophie, c'est le bon conseil, et nul conseil ne se donne avec de grands éclats de voix. Quelquefois on peut employer ces sortes de harangues, passe-moi l'expression, quand l'homme qui hésite a besoin d'entraînement. S'agit-il au contraire non de l'engager à s'instruire, mais de l'instruire en effet, il faut prendre, comme nous, un ton moins relevé. Tout pénètre et se grave ainsi plus facilement. Car l'essentiel, ce n'est pas le nombre des paroles, c'est leur efficacité. Répandons-les comme une semence qui, bien que toute menue, en tombant sur un sol propice, y développe ses vertus, et du moindre germe parvient aux plus vastes accroissements. Ainsi fait la raison. Ces principes de mince portée au premier aspect grandissent en agissant. Ce qu'elle dit se réduit à peu. Mais ce peu, reçu par une âme bien préparée, se fortifie et croît bien vite. Oui, il en est de ces préceptes comme de tout germe. Il fructifie merveilleusement, si petite place qu'ils tiennent. Il ne faut, ai-je dit, que d'heureuses dispositions pour les saisir et les absorber. L'âme, en retour, produira d'elle-même à souhait et rendra plus qu'elle n'aura reçu. Lettre 39. Aimez mieux la médiocrité que l'excès. Les résumés que tu désires, je les rédigerai certainement avec le plus de méthode et de concision possible. Mais vois s'il n'y aurait pas plus d'avantage dans la forme ordinaire que dans celle qu'on nomme aujourd'hui vulgairement breviarium, et qui jadis, quand nous parlions latin, s'appelait summarium. La première importe plus à qui étudie, la seconde à qui sait, car l'une enseigne, l'autre rappelle. Mais je te donnerai de toutes deux en suffisance. Tu n'as que faire d'exiger telle ou telle autorité. Les inconnus seuls donnent des répondants. J'écrirai donc ce que tu veux, mais à ma façon. En attendant, tu as nombre d'auteurs où je ne sais si tu trouveras assez de méthodes. Prends en main le catalogue des philosophes. Cela seul te réveillera forcément quand tu verras combien d'hommes ont travaillé pour toi. Tu désireras compter à ton tour parmi eux. Car le premier mérite d'une âme noble, c'est l'élan qu'il apporte au bien. Nul homme doué de sentiments élevés ne trouve du charme dans l'ignoble et le bas. L'idée du grand l'attire et l'exalte, de même que la flamme s'élève droite sans qu'on puisse la faire ramper ou la battre, non plus que la tenir immobile. Ainsi, l'âme humaine ne repose jamais, d'autant plus remuante et active qu'elle a plus de vigueur. Mais heureux qui a tourné cet élan vers le bien. Il se placera hors de la juridiction et du domaine de la fortune, se modérera dans les succès, brisera l'aiguillon du malheur et dédaignera ce qu'admireront les autres. Il est d'une âme grande de mépriser les grandeurs et d'aimer mieux la médiocrité que l'excès. La médiocrité seule est utile et fait vivre l'homme. L'excès nuit par son superflu même. Ainsi verse les épis trop pressés. Ainsi la branche surchargée de fruits se rompra. Ainsi l'exubérance n'arrive point à maturité. Il en est de même des esprits. Une prospérité sans mesure les brise. Ils n'en usent qu'au préjudice d'autrui comme au leur. Fût-on jamais plus malmené par un ennemi que certains hommes par leur plaisir, par ces tyranniques et folles débauches qui ne leur laissent quelque droit à la pitié que parce qu'ils subissent ce qu'ils ont fait subir. Et il faut bien qu'ils soient victimes de leur frénésie. Nécessairement, la passion n'admet plus de limites dès qu'elle a franchi celle de la nature. La nature a son point d'arrêt. Les chimères et les fantaisies de la passion vont à l'infini. Le nécessaire a pour mesure l'utile. Mais le superflu, où le réduire? Aussi se noie-t-il dans ces voluptés qui sont pour eux des habitudes et dont ils ne peuvent se passer, d'autant plus misérables que le superflu leur est devenu nécessaire. Esclaves des plaisirs, ils n'en jouissent pas, et pour dernier malheur, ils sont amoureux de leurs maux. Oui, c'est le comble de l'infortune que de se vouer à la turpitude, non plus par l'attrait du moment, mais par goût. Plus de remède possible quand nos vices d'autrefois sont nos mœurs d'à présent. Lettre 40. Le vrai philosophe parle autrement que le rhéteur. Je te sais gré de m'écrire fréquemment, car c'est la seule manière dont tu puisses te montrer à moi. Jamais je ne reçois de tes lettres qu'à l'instant même nous ne soyons réunis. Si les portraits de nos amis absents nous intéressent par les souvenirs qu'ils renouvellent, si cette consolation vaine et illusoire adoucit les regrets de la séparation, combien une lettre nous charme davantage en nous apportant de si loin des traces vivantes d'un être chéri, des caractères qui respirent en effet. Ce que leur présence avait de plus doux se retrouve et se reconnaît sur ces feuilles où une main a mis cette empreinte. Tu m'écris que tu as entendu le philosophe Sérapion lorsqu'il aborda dans tes parages, que sa manière consiste en un rapide torrent de paroles, que ses expressions ne se succèdent pas, mais se poussent et se précipitent, et qu'elles lui viennent en trop grand nombre pour qu'un seul gosier y suffise. Je n'approuve pas cela dans un philosophe dont le parler même, comme la conduite, doit être mesurée, ce qui ne va point avec une précipitation trop hâtive. Aussi, ces paroles pressées, qui s'épanchent ininterrompues comme des flocons de neige, sont, par Homère, attribuées à l'orateur. Mais l'éloquence du vieux Nestor coule avec lenteur et plus douce que le miel. Tiens pour certain que cette véhémence si prompte et si abondante sied mieux à un déclamateur ambulant qu'à un homme qui traite une œuvre grande et sérieuse qu'à un professeur de sagesse. J'aime aussi peu les phrases qui filtrent goutte à goutte que celles qui vont au pas de course. L'oreille ne veut ni attendre ni être assourdie. La disette et la maigreur du débit rendent l'auditeur moins attentif, ennuyé qu'il est d'une lenteur brisée encore par des repos. Toutefois, ce qu'il faut attendre s'imprime plus aisément que ce qui ne fait qu'effleurer. Enfin, le maître, comme on dit, transmet ses préceptes aux disciples. On ne transmet pas ce qui fuit. Ajoute que l'éloquence qui se consacre à la vérité doit être simple et sans apprêt, tandis que la faconde populaire n'a rien de vrai. Elle veut remuer la foule et entraîner tout d'un élan un auditoire sans expérience. Elle ne se laisse pas examiner, elle est déjà loin. Or, comment modérer les autres quand on ne peut se modérer? D'ailleurs, le discours qui s'emploie à la guérison des âmes doit pénétrer tout l'homme. Les remèdes ne profitent que s'ils séjournent quelque temps. Et que de vide et de néant dans ces phrases, plus de son que de poids. Apprivoiser les monstres qui m'épouvantent, calmer les passions qui m'irritent, dissiper mes erreurs, réfréner mon luxe, gourmander ma cupidité. Rien de tout cela peut-il se faire à la course? Un médecin peut-il guérir ses malades en passant? Et puis, On ne trouve même aucun plaisir dans ce cliquetis de mots précipités sans choix. Comme la plupart des tours de force qu'on croirait ne pouvoir se faire et qu'il suffit de voir une fois, c'est bien assez d'entendre un moment ces baladins de la parole. Car que voudrait-on apprendre ou imiter d'eux? Que juger de leur âme quand leur discours désordonné s'emporte jusqu'à ne plus pouvoir s'arrêter? L'homme qui court sur une pente rapide ne se retient pas où il veut. Entraîné par sa vitesse et le poids de son corps, il dépasse le point qu'il s'était marqué. Ainsi, cette volubilité de diction n'est plus maîtresse d'elle-même, ni assez digne du philosophe qui doit placer ses paroles, non les jeter au vent, qui doit s'avancer pas à pas. Quoi donc? Ne devra-t-il jamais s'élever? Pourquoi non? Mais que ce soit sans compromettre sa dignité morale que lui ferait perdre cette violente exagération de force. Sa force sera grande et modérée toutefois, comme un fleuve au cours continu, non comme un torrent. À peine permettrai-je à un orateur une telle vélocité de langue dont on ne saurait ni rappeler ni régler l'essor. Comment en effet le juge, souvent inhabile et novice, le suivrait-il? L'orateur fut-il emporté par le besoin de faire effet ou par une émotion qu'il ne maîtrise plus, ne doit décocher dans sa course que ce que l'oreille peut recueillir. Tu feras donc sagement de ne pas voir ces hommes qui cherchent à dire beaucoup, non à bien dire, et d'aimer mieux à la rigueur, entendre même un Vinicius. Quel Vinicius, dis-tu? Celui dont on demandait comment il portait la parole. Il la traîne, répondit Acelius. Geminus Varius disait en effet de lui, vous lui trouvez du talent, je ne sais pourquoi. Il ne peut coudre trois mots ensemble. Oui, si tu dois parler, parle plutôt comme Vinicius. Dût-il arriver quelque impertinent pareil à celui qui, l'entendant arracher ses mots l'un après l'autre, comme s'il dictait, au lieu de disserter, lui cria « Parle, ou tais-toi une fois pour toutes !» Quant à la précipitation de Aterius, orateur en son temps très célèbre, « Je veux qu'un homme sensé s'en garde le plus qu'il pourra. » Aterius n'hésitait jamais, jamais ne s'interrompait. Il commençait et finissait tout d'une traite. Je suis d'avis pourtant que, selon les nations, certaines méthodes conviennent plus ou moins. Ce que je blâme se passerait aux Grecs. Nous, même en écrivant, nous avons l'habitude de séparer nos mots. Notre Cicéron lui-même, qui, de l'éloquence romaine reçut son élan, eut pour allure le pas. Nos orateurs s'observent mieux que les autres. Ils sentent ce qu'ils valent et donnent le temps de le sentir. Fabianus, aussi distingué par ses vertus et son savoir que par son éloquence, mérite qui vient en troisième ordre, discutait avec aisance plutôt qu'avec promptitude. C'était facilité, pouvait-on dire. Ce n'était pas volubilité. Voilà ce que j'admets dans un sage. Je n'exige pas que ces périodes sortent de sa bouche sans nul embarras. J'aimerais mieux, même, un peu d'effort qu'un jet spontané. Je voudrais d'autant plus te faire peur du travers dont je parle qu'il ne se gagne point sans qu'on ait perdu le respect de soi-même. Il faut pour cela se faire un front d'airain et ne pas s'écouter. Car dans cette course irréfléchie, que de choses on voudrait ressaisir. Non, te dis-je, on obtient ce triste avantage qu'aux dépens de sa dignité. D'ailleurs, il est besoin pour cela qu'on s'exerce tous les jours, et que des choses on transporte son étude aux mots. Or, quand les mots te viendraient d'eux-mêmes et couleraient de source, et sans nul travail de ta part, tu dois néanmoins en régler le cours. Et comme une démarche modeste sied à l'homme sage, il lui faut un langage concis, point aventureux. Ainsi, pour conclusion dernière, je te recommande d'être lent à parler. Lettre 41. Dieu réside dans l'homme de bien. Vraie supériorité de l'homme. Tu fais une chose excellente et qui te sera salutaire si, comme tu l'écris, tu marches avec persévérance vers cette sagesse qu'il est absurde d'implorer par des vœux quand on peut l'obtenir de soi. Il n'est pas besoin d'élever les mains vers le ciel, ni de gagner le gardien d'un temple pour qu'il nous introduise jusqu'à l'oreille de la statue, comme si, de la sorte, elle pouvait mieux nous entendre. Il est près de toi, le Dieu. Il est avec toi. Il est en toi. Oui, Lucilius, un Esprit Saint réside en nous, qui observe nos vices et veille sur nos vertus, qui agit envers nous comme nous envers lui. Point d'homme du bien qui ne l'est avec soi. Qui donc, sans son appui, pourrait s'élever au-dessus de la fortune? C'est lui qui inspire les grandes et généreuses résolutions. Dans chaque âme vertueuse, il habite. Quel Dieu! Nul ne le sait, mais il habite un Dieu. S'il offre à tes regards un de ces bois sacrés peuplés d'arbres antiques qui dépassent les proportions ordinaires, où l'épaisseur des rameaux étagés les uns sur les autres te dérobe la vue du ciel, l'extrême hauteur des arbres, la solitude du lieu, et ce qu'a d'imposant cette ombre en plein jour si épaisse et si loin prolongée, te font croire qu'un Dieu est là. Et cet antre, qui, sur des rocs profondément minés, tient une montagne suspendue. Cet antre, qui n'est pas de main d'homme, mais que des causes naturelles ont creusé en voûte gigantesque. Ton âme, toute saisie, n'y pressent-elle pas quelque haut mystère religieux? Nous vénérons la source des grands fleuves, au point où, tout à coup, de dessous terre, une rivière a fait éruption. On dresse des autels. Toute veine d'eau thermale a son culte, et la sombre teinte de certains lacs où leurs abîmes s'en font, les ont rendus sacrés. Et si tu vois un homme que n'épouvante point les périls, pur de toute passion, heureux dans l'adversité, calme au sein des tempêtes, qui voit de haut les hommes, et, à son niveau, les dieux, tu ne seras point pénétré pour lui de vénération. Tu ne diras point « Voilà une trop grande, une trop auguste merveille pour la croire semblable à ce corps chétif qui l'enferme. » Une force divine est descendue là. Cette âme supérieure, maîtresse d'elle-même, qui juge que toute chose est au-dessous d'elle et qui passe, se riant de ce que craignent ou souhaitent les autres, elle est mue par une puissance céleste. Un tel être ne peut se soutenir sans la main d'un Dieu. Aussi tient-il, par la meilleure partie de lui-même, au lieu d'où il est émané. Comme les rayons du soleil, bien qu'ils touchent notre sol, n'ont point quitté le foyer qui les lance, de même, cette âme sublime et sainte, envoyée ici-bas pour nous montrer la divinité de plus près, se mêle aux choses de la terre, sans se détacher du ciel, sa patrie. Elle y est suspendue, elle y regarde, elle y aspire, elle vit parmi nous comme supérieure à nous. Quelle est donc cette âme? Celle qui ne s'appuie que sur les biens qui lui sont propres. Quoi de plus absurde, en effet, que de louer dans l'homme ce qui lui est étranger. Quelle plus grande folie que d'admirer en lui ce qui peut tout à l'heure passer à un autre. un frein d'or n'ajoute pas à la bonté du coursier. Le lion, dont on a doré la crinière, qui se laisse toucher et manier, qui subit patiemment la parure imposée à son courage dompté, n'entre pas dans l'arène du même air que cet autre qui, sans apprêt, garde tout son instinct farouche. Celui-ci, dans sa fougue sauvage telle que l'a voulu la nature, majestueusement hérissé, beau de la peur qu'inspire son seul aspect, on le préfère à cet impuissant quadrupède qui reluit de paillettes d'or. Nul ne doit tirer gloire que de ce qui lui est personnel. On fait cas d'une vigne dont les branches surchargées de fruits entraînent par leur poids ses soutiens même jusqu'à terre. Trouvera-t-on plus beau des ceps d'or ou des raisins, des feuilles d'or serpentent? Le mérite essentiel d'une vigne est la fécondité. Dans l'homme aussi, ce qu'il faut priser, c'est ce qui est de l'homme même. Qu'il ait de superbes esclaves, un palais magnifique, beaucoup de terres ensemencées et de capitaux productifs, tout cela n'est pas en lui, mais autour de lui. Loue en lui ce qu'on ne peut ni ravir ni donner, ce qui est son bien propre. Que sera-ce donc, dis-tu? Son âme est dans cette âme la raison perfectionnée. Car l'homme est un être doué de raison, et le souverain bien pour lui est d'avoir atteint le but pour lequel il est né. Or, qu'exige de lui cette raison? Une chose bien facile, de vivre selon sa nature, chose pourtant que rend difficile la folie générale. On se pousse l'un l'autre dans le vice. Comment, alors, rappeler dans les voies du salut ceux que nul ne retient et que la multitude entraîne?